337. Si la réunion est dans une mauvaise voie, dira-t-on des hommes sensés et bien intentionnés, n'ont-ils pas le droit de critique, et doivent-ils passer le mal sans rien dire, l'approuver par leur silence? Sans aucun doute, c'est leur droit. C'est de plus un devoir. Mais si leur intention est réellement bonne, ils émettent leur avis avec convenance et bienveillance, ouvertement et non en cachette. S'il n'est pas suivi, ils se retirent, car on ne concevrait pas que celui qui n'aurait aucune arrière-pensée s'obstinât à rester dans une société où l'on ferait des choses qui ne lui conviendraient pas. On peut donc établir en principe que quiconque, dans une réunion spirite, provoque au désordre ou à la désunion, ostensiblement ou par-dessous même, par des moyens quelconques, est ou un agent provocateur, ou tout au moins un très mauvais spirit dont on ne saurait se débarrasser trop tôt. Mais les engagements mêmes qui lient tous les membres y mettent souvent obstacle. C'est pourquoi il convient d'éviter les engagements indissolubles. Les hommes de bien sont toujours assez engagés. Les mal intentionnés le sont toujours trop. 338. Outre les gens notoirement malveillants qui se glissent dans les réunions, il y a ceux qui, par caractère, portent le trouble avec eux partout où ils se trouvent. On ne saurait donc être trop circonspect sur les éléments nouveaux que l'on introduit. Les plus fâcheux, dans ce cas, ne sont pas les ignorants sur la matière ni même ceux qui ne croient pas. La conviction ne s'acquiert que par l'expérience, et il y a des gens qui veulent s'éclairer de bonne foi. Ceux, surtout, dont il faut se préserver, sont les gens à système préconçu, les incrédules quand même qui doutent de tout, même de l'évidence, les orgueilleux qui prétendent avoir seule la lumière infuse, veulent partout imposer leur opinion, et regardent avec dédain quiconque ne pense pas comme eux. Ne vous laissez pas prendre à leur prétendu désir de s'éclairer. Il en est plus d'un qui serait bien fâché d'être forcé de convenir qu'il s'est trompé. Gardez-vous surtout de ces pérorreurs insipides qui veulent toujours avoir le dernier mot, et de ceux qui ne se plaisent que dans la contradiction. Les uns et les autres font perdre le temps sans profit pour eux-mêmes. Les esprits n'aiment pas les paroles inutiles. 339. Vu la nécessité d'éviter toute cause de trouble et de distraction, une société spirite qui s'organise doit apporter toute son attention sur les mesures propres à ôter aux fauteurs de désordre les moyens de nuire et à donner les plus grandes facilités pour les écarter. Les petites réunions n'ont besoin que d'un règlement disciplinaire fort simple pour l'ordre des séances. Les sociétés régulièrement constituées exigent une organisation plus complète. La meilleure sera celle dont les rouages seront le moins compliqués. Les unes et les autres pourront puiser ce qui leur sera applicable ou ce qu'elles croiront utile dans le règlement de la Société parisienne des études spirites que nous donnons ci-après. 340. Les sociétés petites ou grandes et toutes les réunions, quelle qu'en soit l'importance, ont à lutter contre un autre écueil. Les fauteurs de troubles ne sont pas seulement dans leur sein, ils sont également dans le monde invisible. De même qu'il y a des esprits protecteurs pour les sociétés, les villes et les peuples, des esprits malfaisants s'attachent aux groupes comme aux individus. Ils s'attaquent d'abord aux plus faibles, aux plus accessibles, dont ils cherchent à se faire des instruments et de proche en proche tâchent de circonvenir les masses, car leur joie méchante est en raison du nombre de ceux qu'ils tiennent sous leurs joues. Toutes les fois donc que dans un groupe une personne tombe dans le piège, il faut se dire qu'il y a un ennemi dans le camp, un loup dans la bergerie, et qu'on doit se tenir sur ses gardes, car il est plus que probable qu'il multipliera ses tentatives. Si on ne le décourage par une résistance énergique, l'obsession devient alors comme un mal contagieux. Il se manifeste chez les médiums par la perturbation de la médiumnité, et chez d'autres par l'hostilité des sentiments, la perversion du sens moral et le trouble de l'harmonie. Comme le plus puissant antidote de ce poison est la charité, c'est la charité qu'il cherche à étouffer. Il ne faut donc pas attendre que le mal soit devenu incurable pour y porter remède. Il ne faut pas même attendre les premiers symptômes. Il faut surtout s'attacher à le prévenir. Pour cela, il est deux moyens efficaces s'ils sont bien employés. La prière de cœur et l'étude attentive des moindres signes qui révèlent la présence d'esprits trompeurs. Le premier attire les bons esprits qui n'assistent avec zèle que ceux qui les secondent par leur confiance en Dieu. L'autre prouve aux mauvais qu'ils ont affaire à des gens assez clairvoyants et assez sensés pour ne pas se laisser abuser. Si l'un des membres subit l'influence de l'obsession, tous les efforts doivent tendre dès les premiers indices à lui dessiller les yeux de peur que le mal ne s'aggrave, afin d'amener chez lui la conviction qu'il s'est trompé et le désir de seconder ceux qui veulent le débarrasser. 341. L'influence du milieu est la conséquence de la nature des esprits et de leur mode d'action sur les êtres vivants. De cette influence, chacun peut déduire soi-même les conditions les plus favorables pour une société qui aspire à se concilier la sympathie des bons esprits et à n'obtenir que de bonnes communications en écartant les mauvais. Ces conditions sont toutes dans les dispositions morales des assistants. Elles se résument dans les points suivants. Parfaite communauté de vues et de sentiments. Bienveillance réciproque entre tous les membres. Abnégation de tout sentiment contraire à la véritable charité chrétienne. Désir unique de s'instruire et de s'améliorer par l'enseignement des bons esprits et mise à profit de leurs conseils. Quiconque est persuadé que les esprits supérieurs se manifestent en vue de nous faire progresser et non pour notre agrément, comprendra qu'ils doivent se retirer de ceux qui se bornent à admirer leur style sans en retirer aucun fruit, et ne prise l'attrait des séances que par le plus ou moins d'intérêt qu'elle leur offre selon leur goût particulier. L'exclusion de tout ce qui, dans les communications demandées aux esprits, n'aurait qu'un but de curiosité, recueillement et silence respectueux pendant les entretiens avec les esprits, association de tous les assistants par la pensée à l'appel fait aux esprits que l'on évoque, concours des médiums de l'assemblée avec abnégation de tout sentiment d'orgueil, d'amour-propre et de suprématie, et par l'unique désir de se rendre utile. Ces conditions sont-elles si difficiles à remplir qu'on ne puisse les rencontrer? Nous ne le pensons pas. Nous espérons au contraire que les réunions vraiment sérieuses, comme il en existe déjà dans différentes localités, se multiplieront. Et nous n'hésitons pas à dire que c'est à elle que le spiritisme devra sa plus puissante propagation en ralliant les hommes honnêtes et consciencieux. Elles imposeront silence à la critique, et plus leurs intentions seront pures, plus elles seront respectées, même de leurs adversaires. Lorsque la raillerie s'attaque au bien, elle cesse de faire rire, elle se rend méprisable. C'est entre les réunions de ce genre qu'un véritable lien sympathique, une solidarité mutuelle s'établiront par la force des choses et contribueront au progrès général. 342. Ce serait une erreur de croire que les réunions où l'on s'occupe plus spécialement des manifestations physiques soient en dehors de ce concert fraternel et qu'elles excluent toute pensée sérieuse. Si elle ne requiert pas des conditions aussi rigoureuses, ce n'est pas impunément qu'on y assiste avec légèreté, et l'on se tromperait si on croyait que le concours des assistants y soit absolument nul. On a la preuve du contraire de ce fait que souvent les manifestations de ce genre, même provoquées par de puissants médiums, ne peuvent se produire dans certains milieux. Il y a donc aussi pour cela des influences contraires, et ces influences ne peuvent être que dans la divergence ou l'hostilité des sentiments qui paralysent les efforts des esprits. Les manifestations physiques, comme nous l'avons dit, ont une grande utilité. Elles ouvrent un vaste champ à l'observateur, car c'est tout un ordre de phénomènes insolites qui se déroulent à ses yeux et dont les conséquences sont incalculables. Une assemblée peut donc s'en occuper dans des vues très sérieuses, mais elle ne saurait atteindre son but, soit comme étude, soit comme moyen de conviction, si elle ne se place dans des conditions favorables. La première de toutes est non pas la foi des assistants, mais leur désir de s'éclairer sans arrière-pensée, sans parti pris de rejeter même l'évidence. La seconde est la restriction de leur nombre pour éviter le mélange des éléments hétérogènes. Si les manifestations physiques sont produites en général par les esprits les moins avancés, elles n'en ont pas moins un but providentiel et les bons esprits les favorisent toutes les fois qu'elles peuvent avoir un résultat utile. Sujet d'étude 343. Lorsqu'on a évoqué ses parents et ses amis, Quelques personnes célèbres pour comparer leur opinion d'outre-tombe avec celle qu'ils ont eue de leur vivant, on est souvent embarrassé pour alimenter les entretiens, à moins de tomber dans les banalités et les futilités. Beaucoup de personnes pensent, en outre, que le livre des esprits a épuisé la série des questions de morale et de philosophie. C'est une erreur. C'est pourquoi il peut être utile d'indiquer la source où l'on peut puiser des sujets d'étude, pour ainsi dire illimités. 344. Si l'évocation des hommes illustres, des esprits supérieurs, est éminemment utile par l'enseignement qu'ils nous donnent, celle des esprits vulgaires ne l'est pas moins, bien qu'ils soient incapables de résoudre les questions d'une haute portée. Par leur infériorité, ils se peignent eux-mêmes, et moins la distance qui les sépare de nous est grande, plus nous y trouvons de rapport avec notre propre situation, sans compter qu'ils nous offrent souvent des traits caractéristiques du plus haut intérêt, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus au numéro 281, en parlant de l'utilité des évocations particulières. C'est donc une mine inépuisable d'observations. En ne prenant même que les hommes dont la vie présente quelques particularités sous le rapport du genre de mort, de l'âge, des bonnes ou mauvaises qualités, de leur position heureuse ou malheureuse sur la terre, des habitudes, de l'état mental, etc. Avec les esprits élevés, le cadre des études s'élargit. Outre les questions psychologiques qui ont une limite, on peut leur proposer une foule de problèmes moraux qui s'étendent à l'infini sur toutes les positions de la vie, sur la meilleure conduite à tenir dans telle ou telle circonstance donnée, sur nos devoirs réciproques, etc. La valeur de l'instruction que l'on reçoit sur un sujet quelconque, moral, historique, philosophique ou scientifique, dépend entièrement de l'état de l'esprit que l'on interroge. C'est à nous de juger. 345. Outre les évocations proprement dites, les dictées spontanées offrent des sujets d'étude à l'infini. Elles consistent à attendre le sujet qu'il plaît aux esprits de traiter. Plusieurs médiums peuvent, dans ce cas, travailler simultanément. Quelquefois, on peut faire appel à un esprit déterminé. Le plus ordinairement, on attend ceux qui veulent bien se présenter, et il en vient souvent de la manière la plus imprévue. Ces dictées peuvent ensuite donner lieu à une foule de questions dont le thème se trouve ainsi tout préparé. Elles doivent être commentées avec soin pour étudier toutes les pensées qu'elles renferment et juger si elles portent avec elles un cachet de vérité. Cet examen fait avec sévérité est, comme nous l'avons dit, la meilleure garantie contre l'intrusion des esprits trompeurs. Par ce motif, autant que pour l'instruction de tous, il pourra être donné connaissance des communications obtenues en dehors de la réunion. Il y a là, comme on le voit, une source intarissable d'éléments éminemment sérieux et instructifs. 346. Les occupations de chaque séance peuvent être réglées ainsi qu'il suit. Premièrement, lecture des communications spirites obtenues dans la dernière séance, mise au nez. Deuxièmement, rapports divers, correspondance, lecture des communications obtenues en dehors des séances, relations de faits intéressants de spiritisme. Troisièmement, travaux d'études, dictées spontanées, questions diverses et problèmes moraux proposés aux esprits, évocations. Quatrièmement, conférences, examen critique et analytique des diverses communications, discussions sur les différents points de la science spirit. 347. Les groupes naissants sont quelquefois arrêtés dans leurs travaux par le manque de médiums. Les médiums sont assurément un des éléments essentiels des réunions spirites, mais ils n'en sont pas l'élément indispensable, et l'on aurait tort de croire qu'à leur défaut, il n'y a rien à faire. Sans doute, ceux qui ne se réunissent que dans un but d'expérimentation ne peuvent pas plus sans médium que des musiciens dans un concert sans instrument. Mais ceux qui ont en vue l'étude sérieuse ont mille sujets d'occupation tout aussi utiles et profitables que s'ils pouvaient opérer par eux-mêmes. D'ailleurs, les réunions qui ont des médiums peuvent accidentellement se trouver au dépourvu, et il serait fâcheux qu'elles crussent dans ce cas n'avoir qu'à se retirer. Les esprits eux-mêmes peuvent de temps en temps les mettre dans cette position, afin de leur apprendre à se passer d'eux. Nous dirons plus. c'est qu'il est nécessaire, pour profiter de leur enseignement, de consacrer un certain temps à le méditer. Les sociétés scientifiques n'ont pas toujours les instruments d'observation sous les yeux, et pourtant, elles ne sont pas embarrassées de trouver des sujets de discussion en l'absence de poètes et d'orateurs. Les sociétés littéraires lisent et commentent les ouvrages des auteurs anciens et modernes. Les sociétés religieuses méditent sur les écritures. Les sociétés spirites doivent faire de même et elles tireront un grand profit pour leur avancement en établissant des conférences dans lesquelles on lirait et commenterait tout ce qui peut avoir trait au spiritisme pour ou contre. De cette discussion, où chacun apporte le tribut de ses réflexions, jaillissent des traits de lumière qui passent inaperçus dans une lecture individuelle. À côté des ouvrages spéciaux, les journaux fourmillent de faits, de récits, d'événements, de traits de vertu ou de vice qui soulèvent de graves problèmes moraux que le spiritisme seul peut résoudre. Et c'est encore là un moyen de prouver qu'il se rattache à toutes les branches de l'ordre social. Nous mettons en fait qu'une société spirite qui organiserait son travail dans ce sens, en se procurant les matériaux nécessaires, ne trouverait pas assez de temps à donner aux communications directes des esprits. C'est pourquoi nous appelons sur ce point l'attention des réunions vraiment sérieuses, de celles qui ont plus à cœur de s'instruire que de chercher un passe-temps. Entre parenthèses, voir le numéro 207 au chapitre de la formation des médiums. Fermez la parenthèse. Rivalité entre les sociétés. 348. Les réunions qui s'occupent exclusivement des communications intelligentes et celles qui se livrent à l'étude des manifestations physiques ont chacune leur mission. Ni les unes ni les autres ne seraient dans le véritable esprit du spiritisme si elles se voyaient d'un mauvais œil. Et celle qui jetterait la pierre à l'autre prouverait par cela seule la mauvaise influence qui la domine. Toutes doivent concourir, quoique par des voies différentes, au but commun qui est la recherche et la propagation de la vérité. Leur antagonisme, qui ne serait qu'un effet de l'orgueil surexcité, en fournissant des armes aux détracteurs, ne pourrait que nuire à la cause qu'elles prétendent défendre. 349. Les dernières réflexions s'appliquent également à tous les groupes qui pourraient différer sur quelques points de la doctrine. Comme nous l'avons dit au chapitre des contradictions, ces divergences ne portent la plupart du temps que sur des accessoires, souvent même sur de simples mots. Il y aurait donc de la puérilité à faire bande à part, parce qu'on ne penserait pas exactement de même. Il y aurait pire que cela, si les différents groupes ou sociétés d'une même ville se regardaient avec jalousie. On comprend la jalousie entre gens qui se font concurrence et peuvent se porter un préjudice matériel. Mais quand il n'y a pas spéculation, la jalousie ne peut être qu'une mesquine rivalité d'amour-propre. Comme en définitive, il n'est pas de société qui puisse réunir dans son sein tous les adeptes, celles qui sont animées d'un véritable désir de propager la vérité, dont le but est uniquement moral, doivent voir avec plaisir se multiplier les réunions et, s'il y a concurrence entre elles, ce doit être à qui fera le plus de bien. Celles qui prétendraient être dans le vrai à l'exclusion des autres devraient le prouver en prenant pour devise amour et charité, car telle est celle de tout vrai spirite. Veulent-elles se prévaloir de la supériorité des esprits qui les assistent? Qu'elles le prouvent par la supériorité des enseignements qu'elles reçoivent et par l'application qu'elles s'en font à elles-mêmes. C'est là un critérium infaillible pour distinguer celles qui sont dans la meilleure voie. Certains esprits, plus présomptueux que logiques, tentent parfois d'imposer des systèmes étranges et impraticables à la faveur des noms vénérés dont ils se parent. Le bon sens fait bientôt justice de ces utopies, mais, en attendant, elles peuvent semer le doute et l'incertitude parmi les adeptes, de là souvent une cause de dissentiment momentané. Outre les moyens que nous avons donnés de les apprécier, il est un autre critérium qui donne la mesure de leur valeur. C'est le nombre des partisans qu'ils recrutent. La raison dit que le système qui trouve le plus d'écho dans les masses doit être plus près de la vérité que celui qui est repoussé par la majorité et voit ses rangs s'éclaircir. Aussi, Tenez pour certain que les esprits qui refusent la discussion de leur enseignement, c'est qu'ils en comprennent la faiblesse. 350. Si le spiritisme doit, ainsi que cela est annoncé, amener la transformation de l'humanité, ce ne peut être que par l'amélioration des masses, laquelle n'arrivera graduellement et de proche en proche que par l'amélioration des individus. Qu'importe de croire à l'existence des esprits si cette croyance ne rend pas meilleur, plus bienveillant et plus indulgent pour ses semblables, plus humble, plus patient dans l'adversité? Que sert à l'avare d'être spirit s'il est toujours avare, à l'orgueilleux s'il est toujours plein de lui-même, à l'envieux s'il est toujours jaloux? Tous les hommes pourraient donc croire aux manifestations et l'humanité rester stationnaire. Mais tels ne sont pas les desseins de Dieu. C'est vers le but providentiel que doivent tendre toutes les sociétés spirites sérieuses, en groupant autour d'elles tous ceux qui sont dans les mêmes sentiments. Alors, il y aura entre elles union, sympathie, fraternité, et non un vain et puéril antagonisme d'amour-propre, de mots plutôt que de choses. Alors, elles seront fortes et puissantes, parce qu'elles s'appuieront sur une base inébranlable, le bien pour tous. Alors, elles seront respectées et imposeront silence à la sottraillerie, parce qu'elles parleront au nom de la morale évangélique respectée de tous. Telle est la voie dans laquelle nous nous sommes efforcés de faire entrer le spiritisme. Le drapeau que nous arborons hautement est celui du spiritisme chrétien et humanitaire, autour duquel nous sommes heureux de voir déjà tant d'hommes se rallier sur tous les points du globe, parce qu'ils comprennent que là est l'ancre de salut, la sauvegarde de l'ordre public, le signal d'une ère nouvelle pour l'humanité. Nous convions toutes les sociétés spirites à concourir à cette grande œuvre, que d'un bout du monde à l'autre, elles se tendent une main fraternelle, et elles enlaceront le mal dans les filets inextricables.